France Musique.
Classique Info, Sophie Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec le mouvement de grève qui continue à l'Opéra de Paris, mouvement contre la réforme des retraites.
Cela fait désormais un mois et demi que l'institution lyrique est mobilisée. Une grève historique pour l'opéra samedi dernier. Son orchestre a donné un concert sur les marches du Palais Garnier accompagné de plusieurs corps de métier. Ils ont interprété des extraits de Carmen, comme vous pouvez l'entendre, ou encore du Trouvère de Verdi devant une foule dense. On est tellement malheureux de ne pas pouvoir donner nos spectacles qu'on s'exprime autrement, a fait savoir au journal Le Monde Fabien Valérand, joueur de tuba dans l'orchestre de l'opéra. 67 spectacles ont été annulés depuis le début du mouvement, avec des pertes qui s'élèvent désormais à 14 millions d'euros pour l'opéra.
Et dans un entretien accordé à Télérama, le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, déclare comprendre la grève et la crainte des grévistes.
Un système universel des retraites est impossible ici à cause de l'excellence artistique que nous prônons, affirme le directeur de l'opéra, qui énumère ensuite les difficultés physiques auxquelles sont confrontés les danseurs, chanteurs, musiciens et techniciens. Stéphane Lissner ajoute avoir proposé un calendrier de travail au syndicat pour trouver des solutions.
Et le week-end dernier, l'opéra de Rouen a rejoint le mouvement, Sophia.
Ces musiciens ont eux aussi donné samedi dernier un concert gratuit sur le parvis du Théâtre des Arts, alors que la représentation du soir même était annulée. On ne veut pas mourir sur scène, pouvait-on lire sur la banderole derrière les musiciens. Et tout au long de la journée, des chorales dites de lutte ont accompagné les manifestants dans les rues de Rouen. Comme chaque lundi, c'est l'heure du billet écho d'Antoine Péker. Bonjour Antoine.
Bonjour Sophia, bonjour à tous.
Antoine, vous consacrez votre billet ce matin au sultanat d'Oman qui vient de perdre le 10 janvier dernier son sultan, Qaboos Ben Said. Au pouvoir pendant presque 50 ans, il a été l'un des premiers à lancer une offre culturelle dans le Golfe.
Effectivement, Sophia, puisque c'est à Mascate, la capitale du sultanat, qu'a ouvert, c'était en 2011, le premier opéra de la péninsule arabique, un véritable palais à l'architecture orientalisante, riche en or et en marbre, et dont on ignore le coût de construction. Le sultan Qaboos était lui-même musicien, il jouait de l'orgue. Il y a d'ailleurs, chose rarissime, un immense orgue en fond de scène à l'opéra. Cet opéra n'est pas la seule salle de concert d'Oman. Le sultan en avait aussi fait construire une, personnelle, sur son yacht, et il avait également mis en place une tradition musicale pour le moins surprenante, l'armée omanaise compte en son sein une fanfare de cornemuse, une sorte de souvenir des années que le sultan Qaboos avait passé en Grande-Bretagne. Il avait étudié, je le rappelle, à l'Académie royale militaire de Sandhurst, lorsqu'Oman était encore sous protectorat britannique.
Et le développement culturel d'Oman est-il juste une affaire de goût personnel du sultan ?
Miser sur la culture en faisant construire un opéra, mais aussi plus tard un vaste musée national, répond en fait à plusieurs objectifs. Déjà d'un point de vue géopolitique, ces équipements participent à l'image de pacificateur qu'a toujours voulu donner le sultan dans une région en proie au conflit. Du fait notamment de sa confession ibadite, il était l'un des rares à pouvoir parler aussi bien avec les pays chiites, comme l'Iran, que les sunnites, comme l'Arabie Saoudite. En outre, cet essor culturel a aussi un but économique. Le sultanat doit réfléchir à l'après-pétrole et donc à diversifier d'ores et déjà son économie. La culture lui permet ainsi de développer le tourisme, et ça marche. En 2017, nos confrères du Monde avaient classé ce pays comme la première destination au monde à visiter.
Et les arts sont-ils totalement libres à Oman ?
Derrière l'image de pacificateur, il ne faut pas oublier que le sultan menait aussi une politique autoritaire. Les formes d'art alternatives n'ont pas le droit de citer dans le sultanat. C'est ce que me rappelait récemment une source diplomatique. Et même à l'opéra de Mascate, la censure est de mise. Je me souviens y avoir vu une mise en scène de l'Italienne Alger de Rossini, où sur la bouteille de limoncello était inscrit en grandes lettres « Water ». Montrer de l'alcool ou des scènes de nudité y est totalement prohibé.
Et que va-t-il se passer pour la culture après la mort du sultan ?
C'est une question cruciale, Sophia, car tous les équipements culturels sont directement placés sous l'égide du sultan. Tout peut donc théoriquement s'arrêter du jour au lendemain, mais les indicateurs sont plutôt positifs, car le successeur, choisi par Qaboos lui-même, est son cousin, Haitham Ben Tarek, qui était jusqu'à présent ministre de la Culture, et au-delà de son intérêt pour les questions culturelles, c'est une figure modérée, un choix donc rassurant vu les actuelles tensions géopolitiques régionales.
Merci beaucoup Antoine pour cette chronique en partenariat avec la lettre du musicien.
On termine avec quelques mots en hommage au corniste Barry Tuckwell.
Le musicien australien virtuose, chef de file des cornistes de sa génération, nous a quittés à l'âge de 88 ans. Cor solo du London Symphony Orchestra pendant 13 ans. Il a également consacré une partie de sa vie à la direction d'orchestre. Lionel Esparza lui a rendu hommage dans Relax vendredi dernier sur France Musique.
Classique Info, Sophie Anastasio, des infos à retrouver comme tous les jours sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.